Yann et Frank est fier de s'associer à l'entreprise québécoise RangeBrand.ca, le brand numéro 1 de vêtements western au Canada. Si t'es à la recherche de vêtements de qualité disponibles dans toutes les tailles et qui vont se démarquer par un look incroyable et original, viens faire un tour sur RangeBrand.ca. Casquettes, t-shirts, hommes et femmes, hoodies, camisoles, montres et une foule d'accessoires sont disponibles. Livraison gratuite avec une commande de 99$ et plus. RangeBrand.ca.
Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Vous l'avez demandé dans le live du mercredi soir il y a quelques semaines, le livre de Michel Villa, on voulait en parler dans le gros show. Ben, Michel est avec nous aujourd'hui. On a lu le livre, évidemment. On fait ça, nous autres. On invite des gens pour leur livre, puis on les lit avant. Spécial, hein? Vous n'êtes pas habitués de ça? Écoute, Frank, l'idée d'avoir Michel Villa, je pense que c'était un no-brainer. Il a écrit un livre de finances au Québec qui n'est pas distribué beaucoup parce qu'il n'est pas en librairie, de ce que Michel m'expliquait. Il est seulement disponible sur son site web, mais par contre, c'est un des bons livres de finances qui s'est fait au Québec. Il est clairement dans le top 10. Donc, je trouvais ça important que les gens le voient. C'est pile et face de Michel Villa. Puis, il y a tout dans ce livre-là pour que j'en parle jamais, OK? Il a été sponsorisé par Desjardins. C'est un de mes compétiteurs. Normalement, je ne devrais pas en parler. Michel donne des conférences à des investisseurs autonomes qui n'ont pas de conseillers. Normalement, je ne devrais pas en parler. Sauf que, imaginez-vous comment que le livre est bon pour que j'en parle quand même oui. Si techniquement Michel encourage généralement mes compétiteurs.
Ben, puis surtout que tu en as un livre de finances personnelles aussi. Les gens, des fois, sont comme ah, Yann, ils se vendent tout le temps, puis il n'est pas un, puis tout. Ben, on y pose la question c'est quoi si tu avais un livre de finances personnelles à conseiller, quel tu conseilleras? On se serait attendu à ce qu'ils disent le sien, mais non, ça a été le tien, Michel.
Ah, je suis vraiment choyé, merci, Yann.
Ben écoute, les conseillers qui commencent chez nous, qui rentrent dans un programme de formation, on n'en a pas eu une tonne dans les dernières années. Là, présentement, on en a un qui a commencé. La première chose que j'ai demandé à Kevin, j'ai dit, Kevin, évidemment, faut que tu lises dans Dette à millionnaire, t'as pas le choix. T'sais. Si tu vas contre ce livre-là, ça se peut que tu aies la foutre de temps en temps avec des clients qui l'ont lu. Le deuxième livre que je lui demande de lire, c'est celui de Michel. Fait que on va en parler aujourd'hui. Vous allez comprendre qu'est-ce qui m'a attiré dans ce livre-là. Il y a une grosse section sur les biais cognitifs comme investisseur boursier. Michel, tu as été un investisseur boursier toi-même pendant longtemps. Là, ouais. Présentement, tu es conférencier principalement et tu vas supporter des entreprises de finances dans la gestion de la clientèle. Explique-nous un peu ton parcours de vie puis qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre-là.
Ben, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais l'impression que le savoir, c'était la clé du succès à la bourse. J'ai donc commencé à étudier les marchés financiers. J'ai fait toutes les accréditations possibles pour me trouver une job en finance. Je suis devenu arbitragiste action pour Hydro-Québec au début des années 2000. Puis ça, okay. C'était grâce à mon savoir. Donc, j'étais devenu comptable, CFA, me décrocher mon MBA. Puis là, à partir de ce moment-là, là, j'avais un ego gros comme la terre. J'ai tout le savoir. Je suis capable de vraiment avoir raison à la bourse et avoir une belle carrière. Ouais. Puis à un moment donné, pendant 10 ans, en étant trader pour des institutions financières et des caisses de retraite, je me suis dit, je suis bon, moi, parce que j'étais capable d'exécuter des transactions pour des gestionnaires de portefeuille, mais venait un temps que c'était moi qui allais faire les transactions, c'était moi qui allais faire mon propre chemin. Puis je décrochais une job comme prop trader à la Banque Laurentienne. Donc, l'objectif, c'est de générer l'argent pour la banque en achetant et en vendant des actions. Et c'est là que j'ai frappé mon Waterloo. Et j'ai réalisé qu'il manquait le savoir-être, qui est le facteur le plus important. C'est comment tu te comportes face aux fluctuations boursières. Puis de réaliser, dans le fond, que quand tu as de l'ego à la bourse, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas juste une question d'intelligence, c'est une question aussi d'exécution. Tu sais, Warren Buffett l'a déjà dit, là, pour connaître du succès à la bourse, ça te prend un quotient intellectuel minimum de 100. Mais à partir de ce moment-là, ce qui fait la différence, c'est vraiment des facteurs comme la discipline, puis te comprendre, puis te connaître, pour justement éviter des erreurs de jugement qu'on appelle les biais comportementaux.
Ben écoute, la bourse nous joue dans la tête. Hein. Quand ça va bien, on flirte un peu avec l'euphorie, on est content, on serait prêt à en remettre plus. Si on n'a pas d'argent dans notre bas de laine pour en remettre plus en bourse, on va essayer d'hypothéquer un peu la maison, aller prendre un prêt investissement, hypothéquer notre grand-mère. Il y a plein de choses qu'on pourrait penser. Je niaise un peu. Mais quand que, par contre, ça va mal, je veux dire, là, on commence à magasiner des cordes au canac, là. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment intense la vague d'émotions que la bourse peut nous faire vivre parce que c'est pas comme un jeu de hasard comme le casino, mais c'est de l'argent, tu es personnellement impliqué, c'est du real money. Tu peux avoir des gros gains, tu peux avoir des grosses pertes. Puis on est des humains. Faut pas l'oublier, on est des humains et fondamentalement, même si on pense qu'on est peu émotif, très cartésien, on est plus émotif qu'on pense.
Mm-hmm. Il y a deux éléments que j'aimerais faire du pouce. Dans un premier temps, c'est la différence entre la chance puis avoir des habiletés. Souvent, quand on a du succès à la bourse à très court terme, on n'est pas capable des fois de distinguer est-ce que tu as été chanceux
ou
tu as vraiment fait preuve d'habileté. Puis souvent, c'est le seul endroit où ce que tu peux faire une activité puis connaître un meilleur succès que, mettons, Warren Buffett ou un conseiller en placement après plusieurs années parce que tu pourrais quasiment tirer au hasard un titre, l'acheter, puis connaître un bon rendement. Donc, par rapport à ça, j'ai une pas pire anecdote. Tout le monde connaît Zoom Video Communication. Mm-hmm. Durant la COVID, l'action a connu vraiment un gros momentum aussi. Mais il y avait une compagnie qui avait le même nom, mais en Chine. C'était une petite compagnie technologique. Puis c'était Zoom Technologies. Puis là, les gens, ils confondaient les deux Zoom. Puis là, l'action en question, elle a gagné au moins 10 000% parce que les gens avaient acheté le mauvais symbole. Donc, les gens, ils ne faisaient même pas le devoir, puis ils confondaient les deux situations.
Il allait trop vite.
La compagnie Zoom Technologies a profité de ça. Donc, chance versus habileté, c'est extrêmement difficile. Donc, est-ce que tu as un processus? Comment tu arrives pour acheter une action? Puis évidemment, Yann, si tu n'as pas de processus, mais la journée que le marché boursier recule, là, tu es vulnérable à vouloir entendre ce que ton ami, ton beau-frère, ton voisin te dit par rapport à l'action. Et ça cause des problèmes au niveau de ton exécution. Puis deuxième point, tu l'as mentionné, tu sais, l'être humain n'est pas nécessairement irrationnel, il est juste être humain. C'est comme normal d'agir comme ça, parce que le premier mandat de notre cerveau, dans le fond, c'est notre survie. Puis il y a le biais de négativité qui, dans le fond, on est toujours à l'affût de menaces potentiellement là, néfastes pour notre survie. Puis quand je parlais tantôt d'avoir raison, de faire de l'argent, de prouver à notre entourage qu'on est capable de faire du trading. Mais quand ça ne va pas de notre bord, bien, c'est comme une menace par rapport à ça. Puis c'est essentiellement la même chose que quand on se faisait attaquer dans le bois, il y a des centaines d'années. Donc, on est vraiment dans un mécanisme de combat ou de fuite, le fameux flight or fight. Donc, d'être capable de bien s'auto-réguler, bien, c'est souvent la clé à la bourse. Puis si je pose la question aux gens, est-ce que le comportement humain à la bourse est important? Tout le monde va lever la main, mais combien de temps que tu consacres dans ta semaine par rapport à ça, c'est plutôt faible. Donc, évidemment, pour ceux et celles qui sont plus fragiles, d'avoir un conseiller financier pour t'aider à ne pas te pendre avec ta propre corde, c'est une bonne chose parce que je vais terminer mon point en disant que tu vas enseigner de quoi à des gens? 80 % des gens, ça va avoir un impact. Il va en avoir 10 que tu vas leur dire une fois puis ils comprennent. Puis tu as 10 % des gens que tu as beau leur répéter. Ils ne seront pas capables d'y arriver parce qu'ils ne seront pas capables de s'auto-gérer.
On les connaît, puis, eux autres.
Est-ce que je me trompe si je dis qu'il y a un genre de biais de sélection aussi qui s'opère chez les gens qui investissent en bourse? Parce que si je réussis, c'est parce que j'ai du talent et que je connais ça, mais quand je ne réussis pas, là, c'est la malchance qui s'abat. Moi, j'ai l'impression que la quantité de gens qui mettent leur succès sur la chance et leur mauvais succès sur leur absence de connaissance doit être assez faible.
Ben, c'est un excellent point, Frank. C'est vraiment l'autocomplaisance. Quand tu réussis, c'est grâce à toi. Puis quand ça ne va pas bien, c'est la faute aux autres. La réserve fédérale, la COVID. Alors, tu portes le blâme à l'extérieur, puis ce que ça fait, c'est que tu ne te responsabilises pas en tant que négociateur actif. Donc, évidemment, à très court terme, tu peux être chanceux. C'est ce qu'on appelle la loi des petits nombres. Hein, tu prends un petit échantillon, puis finalement, tu as du succès. Puis là, tu extrapoles à long terme. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est important d'avoir une performance sur au moins 2 ou 3 ans pour voir vraiment est-ce que tu es bon là-dedans. Puis juste de poser la question, Frank, comment tu es arrivé à acheter une action? C'est quoi ton processus pour sortir de l'action? Tu vas le voir tout de suite si ça a du sens ou pas. Mais malheureusement, tu n'as pas de barrière à l'entrée. Tu as toutes sortes de cours qui est offert. Tout le monde peut ouvrir un compte de courtage en ligne en cliquant des doigts. Tout le monde a accès à l'information sur YouTube, infolettre, des groupes de trading sur Facebook. Tu as juste à peser sur achat puis vente pour connaître du succès à la bourse. Puis le problème, je te dirais qu'il y a un autre biais qui s'appelle le biais du survivant, c'est qu'on voit juste des histoires à succès.
Exactement.
Et c'est un peu comme à l'auto, parce qu'on voit le gars ou la fille qui a le gros chèque de 12 000 $. Tu as l'impression que toi, tu es capable de l'avoir, mais on ne fera jamais une publicité de l'Auto-Québec en montrant toutes les personnes qui ont perdu au 649 la fin de semaine passée. Parce qu'on n'aurait pas assez de temps pour ça.
Il n'y a pas de genre de Robert Kiyosaki qui écrit de livres disant « Comment je suis passé de millionnaire à sans-abri ». Ça n'existe pas, ce genre de... Ben, peut-être ça existe, là, mais on a compris. Là, en général, les succès, c'est pas pour rien qu'on appelle ça les success stories. Ouais. Les histoires d'investisseurs à la bourse, je veux dire... à part un peu ce qu'on a entendu dans le temps de GameStop, là, qui a mené à des histoires d'horreur, mais à part ça, en général, c'est un peu justement des success stories là, de genre... J'étais chez mes parents, me suis mis à investir à la bourse, regardez ma Ferrari. Là, c'est un peu ce cliché-là que les gens voient des fois. Là, fait que ça peut vendre du rêve. Là,
ben, t'as raison qu'il y a beaucoup de clichés. Puis juste donner un peu des choses concrètes sur ce que Michel vient de dire. Quand il parle de processus, moi j'arrive et je dis, des fois je m'amuse avec les clients que je connais pas, c'est les premières fois que je les rencontre. Puis dans cette rencontre-là, ça va arriver à l'occasion que je vais dire, écoute, grosso modo, tu me payes à rien faire. Les gens font « what the fuck ». Pourquoi qu'ils disent ça? L'idée, c'est toujours un peu de marquer l'imaginaire pour ouvrir un peu l'esprit. Mais les principes de base que je me sers vraiment dans la gestion de la clientèle, je vais vous nommer les 3 grands principes que j'essaie de respecter 100% du temps. Puis vous avez vu que j'ai utilisé le mot « j'essaie » parce que je sens toujours de la pression pour dévier de ces principes-là. Tout le temps. À chaque jour, il y a des moments, c'est plus facile. Ces temps-ci, la bourse va bien, c'est facile de respecter les principes. Des fois, ça va moins bien, c'est plus dur de respecter les principes. Mais quand tu bases tout sur tes principes, aussi simple que sois toujours diversifié, sois toujours investi, puis essaie pas de prédire l'avenir. Tu regardes ça, c'est 3 principes extrêmement simples. Tu te dis, pourquoi je paierais quelqu'un pour m'aider à respecter des principes aussi niaiseux que ça? Ben, c'est la même raison pourquoi tu es prêt à payer un abonnement au gym ou un coach privé au gym pour respecter le principe aussi simple que celui-là. Essaie donc de manger un peu moins de calories que ce que tu dépenses dans la journée. Ben, Christy, tu es prêt à payer quelqu'un pour le respecter parce que c'est des principes qui sont simples, mais difficiles à appliquer.
Écoute, Warren Buffett, il disait ça, Yann. Hein? La bourse, là, c'est simple, mais c'est pas facile.
Exact.
Donc, quand tu regardes le genre de travail que tu fais, c'est que le problème, c'est le biais de l'action. Tu sais, on veut que notre conseiller en placement, on y paye un frais d'honoraire annuel. On s'attend à ce qui bouge. Tu sais, quand moi, ma voiture est brisée, là, je m'en vais au garage, je m'attends à ce que le garagiste répare ma voiture. Je m'en vais chez le médecin, j'ai l'intention qu'il me prescrive des médicaments. Mais là, le conseiller en placement, tu as l'impression, bien, fais quelque chose pour moi. Et là, ça passe par multiplier des transactions, faire des rebalancements de portefeuille et dans un mode action. Mais souvent, la stratégie, comme tu dis, de rien faire, mais c'est pas que tu fais rien, c'est que tu t'assois sur tes lauriers en essayant d'appliquer des principes qui sont super importants, mais tu surveilles quand même l'activité de tes clients et tu les empêches justement de faire des erreurs. Puis le problème, c'est qu'on se souvient souvent de ce qu'on a fait, mais on oublie des fois les décisions qu'on n'a pas prises.
Exact.
Donc, ceux et celles qui voulaient lancer la serviette durant COVID, par exemple, qui ne l'ont pas fait, ben, tu ne les rappelleras pas 2 ans plus tard. Hey, tu te souviens?
Ah, je l'ai fait une
fois. En mars 2023. Là, ça faisait déjà 3 ans. Tu avais obtenu X % de rendement. Une chance que tu n'avais pas vendu dans le trou en 2020, en mars. Tu ne diras pas ça à ton client.
Ben, je l'ai déjà fait. J'avais un client à m'amener, puis je l'adore, ce client. Il est super smart. Puis, quand que l'élection de Biden arrive, donc on est en changement de présidence, on sait qu'est-ce qui est arrivé, là, mais tu sais, c'est vraiment la veille de l'élection. Lui, il m'appelle la veille de l'élection, il dit « Écoute, j'ai pas confiance, je pense que Biden va gagner, je veux tout vendre, je vais être ses lignes de côté. » Là, j'ai dit « Écoute, ça contrevient au principe. » Là, j'ai fighté un peu avec 45 minutes, une heure au téléphone, j'ai tout expliqué pourquoi pas faire ça, ainsi de suite. Puis évidemment, on a pris la décision de pas bouger. On connaît l'histoire maintenant, Biden gagne l'élection, trois jours plus tard, on annonce les vaccins. Puis, soudainement, l'économie se met à respirer un peu puis dire « OK, il y a une lueur d'espoir au bout du tunnel. On va sortir de ce trou-là qui est la pandémie. » Puis, on sait ce que ça a fait en bourse, là, je veux dire. Juste l'annonce des vaccins a tout débloqué. Puis, ça va bien en bourse depuis ce temps-là, pas mal. Il y a eu un petit soubresaut en 2022, mais ça va quand même vraiment bien. Bien, ce client-là, quelques mois après, on a eu une autre conversation pour faire un mouvement dans son CELI ou quelque chose comme ça. Puis, j'ai dit « Hey, tu es content de ne pas avoir vendu? » Alors, il disait, c'est correct. C'est juste drôle. Là. Mais les forces qui nous poussent à vendre. Moi, le moment dans ma carrière que je l'ai senti le plus, c'est de 2017 à 2020. J'utilisais des portefeuilles de style valeur. Donc, des compagnies quand même bien établies, qui sont profitables, qui versent des dividendes, qui sont un peu plates. Okay? Ce n'est pas des compagnies qui révolutionnent le monde à tous les deux jours, là, comme le ferait Apple. Mais j'avais un style d'investissement. Puis c'est un style d'investissement qui n'a pas bien fonctionné entre 2017 et 2020. Ce qui marchait bien dans ces années-là, c'était les techno-américaines. Ouais. C'était le style de croissance, tout ça. Et tu les vois, tes portefeuilles. Tu vois tes portefeuilles sous-performer par rapport au S&P 500 et des trucs comme ça. Puis tu sens la pression. La pression devient extrêmement forte pour dire... Si j'avais fait un meilleur choix, si j'avais été dans tel type de produit, j'aurais eu un meilleur rendement. Les clients seraient plus heureux, les clients seraient plus contents de leur rendement. Ils ne challengeraient pas le fait qu'il y a un de leurs cousins qui a fait un meilleur rendement qu'eux, des choses comme ça. La pression était très forte, mais j'ai maintenu le style. T'sais, j'ai continué d'avancer et on a été récompensé après. Par après, c'est un style qui depuis que les taux d'intérêt montent, c'est un style qui va quand même bien, le style valeur. C'est pas Nvidia, vous allez dire, mais Nvidia, c'est un titre. N'oubliez jamais que c'est juste un titre. Les gens ont déjà oublié qu'en 2022, le Nasdaq avait perdu 32% ou quelque chose comme ça. Fait que c'est vraiment important d'avoir un plan puis de se donner les outils, de le respecter. Le processus, comme Michel expliquait au début, c'est difficile. Puis ça prend du temps. Ça prend du temps qui n'est pas juste de la lecture puis de lire des bons livres, des choses comme ça. C'est vraiment un travail qu'on fait sur soi, constamment. Ouais. Les pressions sont fortes plus que vous pensez. Ben,
justement, je voulais, parce qu'il y a on est en vidéo, des fois on a tendance à l'oublier. Je fais apparaître souvent à l'écran le livre, mais je vais quand même redire pour ceux qui sont juste en audio. Donc, ça s'appelle « Pile et face ». Sous-titré combiner raison et émotion pour réussir en bourse. Et j'aime la description à l'endroit. C'est écrit avant de sortir votre 25 sous chanceux, lisez ces trois affirmations. Si vous vous reconnaissez, plus de doute, ce livre est pour vous. J'ai une base ou de bonnes connaissances sans être un expert de la bourse. J'aime la combinaison entre théorie et conseils pratiques. Et le dernier point dont on parle pas mal depuis le début, je crois que l'étude du comportement humain est un facteur clé de succès à la bourse. Et là, tu parles de la nécessité de finalement de savoir se gérer puis de ce que tu appelles le savoir-être. Là. Tu disais au début, c'est ça qui me manquait quand j'ai commencé. Mais ça tu sais, mettons concrètement, ça se travaille comment? Là? Tu vas faire une psychanalyse? Non, mais pour vrai. Non, mais c'est une question que les gens vont se poser. Ils sont comme, ouais, mais là, mon savoir-être, je gère ça comment? Là?
Écoute, c'est très bon. Tu sais, je te dirais, là, connais-toi toi-même. Là, tu sais, c'est vraiment cliché. Là, c'est un philosophe grec qui a dit ça là, à l'époque. Mais tu sais, dans le sens que souvent, quand on va faire une erreur de négociation, on va prendre le téléphone puis on va appeler Yann avant l'élection de Biden puis on a envie de vendre. On a une réaction physiologique qui va apparaître dans ton corps. Donc, c'est une signature que tu vas avoir. Et cette montée-là d'émotion va t'amener à l'action. Donc, juste de comprendre, de dire « Hey, j'ai une montée d'émotions en moi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis nerveux, je suis anxieux, je suis frustré de ma performance, j'ai envie de me refaire, etc. » Mais ça, là, c'est rationaliser, dans le fond, l'émotion qui monte en toi. Donc, juste de comprendre qu'il se passe de quoi dans ton corps, puis de le verbaliser, tu vas diminuer la charge de 50% au niveau de ta charge émotionnelle. Donc, si par exemple, je suis là avec vous autres, puis je dis, hey, je suis nerveux à l'idée d'échanger avec Yann puis Frank, juste de le verbaliser, bien, je détends d'une coche mon état émotionnel. Et là, ça, c'est la première étape, Frank. Mais souvent, on ne crée pas l'espace entre l'émotion puis l'action parce qu'une émotion en soi, c'est une information qui est neutre. Tu sais, moi, je peux être en colère, puis ça peut vraiment me donner de l'huile sur le feu pour atteindre mes objectifs, me dire, hey, il m'a y montré, ou je peux être en colère, puis finalement prendre une mauvaise décision. Mais d'être en colère, il n'y a pas de mal à ça, c'est ton interprétation de ça. Donc, je te dirais que la première étape, je suis sûr que quand Yann il prend le téléphone avec son client qui est anxieux, ça va être de désamorcer la crise émotionnelle.
Exact.
Pourquoi tu as envie de vendre? Ouais. Y a-t-il une peur derrière ça? C'est quoi le besoin? Ah bien, j'ai peur de manquer d'argent à la retraite. J'ai un besoin de sécurité. J'ai un besoin de rassurer. Puis moi, Frank, là, bien, j'avais envie de prouver à tout le monde que j'étais bon. Je voulais dire aux gens, regarde, moi, j'étais un bon trader, puis j'ai envie de me réaliser, etc. Donc, j'avais ce besoin-là. Puis quand le marché ne me donnait pas raison, bien, je ne l'acceptais pas, puis je faisais des conneries dans le fond. Donc, c'est ça la première étape. Puis la deuxième étape, ça serait, dans le fond, une diffusion qu'on appelle cognitive. C'est qu'on a des pensées dans notre tête. Mais ces pensées-là, ce n'est pas la réalité. C'est un peu comme des trains qui passent, tu décides d'embarquer ou pas dans ce train-là. Donc, si par exemple, tu dis « je suis un incapable, je suis un perdant », si tu commences à rouler ça dans ta tête, tu vas prendre ça pour du cash, puis là, tu vas commencer à perdre confiance, puis tu vas vouloir tirer ça à plug, comme on dit. Donc, la diffusion, c'est de dire que les pensées, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi les pensées, c'est différent. Tu dois être un observateur, puis tu dis « oh! » Je reconnais que j'ai telle pensée. Donc, tu crées une distance psychologique par rapport à ça et là, tu peux commencer à travailler. Donc là, Frank, je te donne juste un aperçu de en quoi ça consiste. Mais c'est beaucoup un travail d'introspection. Oui. Yann et Frank, ben, j'ai fait un cours, on est professeur de méditation en 2019 avec mon amie Marie-Ève Lessine de l'Edby Méditation. Puis, tu sais, la méditation, c'est tellement galvaudé. On en parle tellement, là. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Mais tu sais, c'est juste de prendre le temps de te déposer puis de t'installer puis de voir ce qui se passe dans ton corps. Puis moi, je suis tellement une débite qui est comme à l'extérieur puis je ne faisais pas cet exercice-là. Donc, grosso modo, ça ressemble
à ça. Mais avant de te laisser enchaîner, Yann, moi, personnellement, si je peux dire ce qui, moi, m'aide, par exemple, c'est quand on regarde un peu les différents biais cognitifs, honnêtement, juste de prendre le temps de les regarder, de les lire puis de réfléchir un peu à ça. C'est fou la quantité de comportements de ta vie que tu fais comme « Hey, ça, c'est directement relié à ça, ce que j'ai fait. » Entre autres, moi, je trouve qu'un de ceux qui est le plus puissant, c'est le fameux FOMO, le « Fear of Missing Out ». Et ça, là, tu sais, c'est utilisé, tu sais, par exemple, dans des événements comme le Black Friday. Tu sais, pourquoi est-ce que tout... Tu sais, dans le fond, j'en avais pas besoin de nouvelle TV. Tu sais, j'avais même pas l'idée de m'en acheter une. Puis là, je vois la circulaire du Black Friday. Il y a une TV à 40% de rabais. Puis tout d'un coup, je suis quasiment stressé. Là. Pourquoi je veux partir à la course, m'en aller au magasin, m'acheter une Christie de TV? Mais ça, je veux dire, il y a un bout de ta conscience qui est focalisé là-dessus, mais c'est un autre bout aussi qui est un biais cognitif. Puis c'est les bonnes compagnies de marketing, les bons événements réussissent à faire ça. Tu sais, une année, je me souviens, j'avais suivi une genre de formation justement pour des trucs boursiers. Puis après la formation, ils n'arrêtaient pas d'envoyer des courriels du genre là, il reste juste 24 heures pour avoir le rabais pour acheter ma formation payante. Puis là, tu reçois un courriel, il reste juste 12 heures, puis maintenant, t'es comme, voyons, je suis quasiment stressé, tu sais. Mais c'est vrai, puis tu sais, Yann t'en parle souvent dans la bourse, là, le fear of missing out, là, maintenant, t'as un titre boursier qui devient le talk of the town, puis là, le téléphone sonne, là, ouais, mais là, ça serait le temps qu'on embarque, là, parce que, tu sais, on va manquer le bateau, là.
Écoute, les émotions sont puissantes. Un des exemples, moi, qui me frappe beaucoup, des gens qui se sont essayés vraiment autonomes, donc par eux-mêmes. Évidemment, moi, j'ai mon biais de sélection, parce qu'il faut reconnaître nos biais cognitifs. J'ai mon biais de sélection. La personne qui a du succès comme investisseur autonome ne m'appelle jamais.
Ouais.
À un moment donné, mes relations avec des investisseurs autonomes sont souvent des relations où est-ce que l'investisseur autonome a eu un échec de son côté. Il est tanné. Il ne veut plus trader, puis il veut faire affaire avec quelqu'un parce que justement, c'est sûr, ma perception moi-même personnelle des investisseurs autonomes, c'est toutes des gens qui échouent. Bon, on comprend que ce n'est pas ça la réalité. Je veux dire, tu côtoies certainement des gens qui ont du succès de ton côté. Mais avec plusieurs de ces personnes-là, il y a un processus de deuil à faire avec eux. Ce que Jerry à Radio Pirate va appeler la cage à homards ou des choses comme ça, les gens vont avoir des titres où est-ce qu'ils ont perdu un 70, un 80 % puis qu'ils ont toujours espoir que le titre revienne en vie un jour. Et il y a des gens que ça va prendre 2 semaines avant de décider de le vendre pour venir dans des investissements plus diversifiés. Il y en a que ça va prendre 1 an, il y en a que ça va prendre 5 ans, il y en a qui ne seront jamais capables de le vendre. Ils vont voir la compagnie mourir devant leurs yeux. Il y a quand on vit un échec en bourse, mais s'il y a un processus de deuil à vivre pour un être humain qu'on perd, bien, il y a beaucoup de processus de deuil à vivre aussi avec des titres qui ont mal été.
Oui, puis ça, c'est le biais d'ancrage. Ouais. Tu sais, dans le fond, le marché boursier s'en fout un peu le prix que tu as payé pour ton placement. Ça ne veut rien dire. Mais toi, tu regardes ton placement, tu as acheté à 12 puis rendu à 3. Puis là, tu focalises là-dessus. C'est extrêmement difficile parce qu'il faut que tu te poses la question, regarde, si tu n'avais pas le placement aujourd'hui, tu l'achèterais-tu? Non. Out. Puis donc, c'est vraiment important d'avoir ce genre de distance-là, mais le biais d'ancrage, on arrive en magasin, ils vont dire, hey, écoutez, monsieur, elle vous fait bien la chemise. Savez-vous quoi? Elle est à 75 $, mais aujourd'hui, elle est à 40. Hein? 75, là, il veut rien dire. Il te l'a peut-être mis d'en face juste pour, dans le fond, t'influencer. Donc, c'est vraiment important d'y aller vraiment pour toi, pour le long terme. Ça, c'est vraiment la règle du 2-2-2, tu sais, dans le sens, comment je vais me sentir, Yann, quand je vais avoir vendu mon action dans 2 heures. OK, bien, peut-être que je vais me sentir mal, là. Ça va être plate. Dans 2 mois, peut-être que je m'en souviendrai même plus. Puis dans 2 ans, je vais être content d'avoir fait le move parce que Yann m'a fait investir dans d'autres choses. Donc, c'est important, la règle du 2-2-2, pour vraiment prendre une distance, pour prendre des bonnes décisions pour toi maintenant, qui vont être bénéfiques pour le futur. Je fais juste du pouce par rapport à Frank, ce qu'il disait, là, « Joy of missing out ». Le JOMO, s'il vous plaît, gang. Ouais. Soyez confortable avec le plan de match que, mettons, Yann vous donne. C'est son corps et de sable. Puis t'acceptes le fait qu'il y a 10 000 actions qui font négocier en bourse en Amérique du Nord. C'est sûr que tu vas en rater.
Ben oui.
C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir une action qui va galoper à la hausse. Ouais. Tu ne seras pas là.
Ah, il y a quelqu'un quelque part qui a fait un meilleur rendement que toi. Là.
C'est correct. Ouais. Joy of missing out, c'est correct. Ben, j'accepte le fait que je vais en rater. Puis dès que tu acceptes ça, là tu as un lâcher-prise qui s'installe, puis tu es vraiment confortable pour tes affaires à toi. Parce que Yann, tu le sais, là, avec Frank, c'est vous faites un plan pour vos finances à vous. Objectif de placement, tolérance au risque, horizon de placement, c'est unique à vous. Pas d'affaires, ben à vous comparer à gauche puis à droite. C'est important, ça.
Non, puis tu sais, c'est quelque chose qui s'est produit beaucoup pendant la pandémie, là, avec toutes sortes de business. Tu as parlé du Zoom tout à l'heure, mais tu avais aussi, je me souviens plus du nom, là, mais tu sais, l'entreprise qui faisait des vélos stationnaires avec des programmes.
Peloton.
Ben oui, ouais. Tu as eu ça aussi. Là, les gens étaient comme tout d'un coup, Peloton, c'était la meilleure invention depuis le pain tranché. Il fallait absolument embarquer là-dedans parce qu'il y avait, c'est ça, le fear of missing out. Mais dans la section aussi, je trouve des biais, en tout cas, moi, que je trouve super important pour ça, ce qu'on appelle le fameux, on en parle souvent ici dans le podcast, le sunk cost fallacy. Là, en français, j'aime pas trop le nom. On dit le biais du coût irrécupérable. Là, je trouve que ça parle pas. Là, mais on le voit, tu sais, pour vrai, c'est juste, tu peux analyser l'actualité avec ça. Ouais. L'exemple.
Le toit du stade
olympique. Ouais. C'était l'exemple parfait de ça. Ouais, mais là, on a déjà mis des milliards là-dedans, puis ça coûterait plus cher. Fait que, ben, on continue. Puis là, tu te dis, attendez un peu, là, vous êtes carrément dans le sunk cost fallacy. Là. C'est pas vrai que parce qu'on a mis beaucoup d'argent dans quelque chose, c'est une bonne idée de continuer. Ça, à la bourse, je pense que c'est très présent.
Ah, oh, ouais, absolument. Puis comme je disais tantôt, tu sais, même si tu as investi 5 000 $ dans une action, le prochain 5 000 $, est-ce que c'est le meilleur véhicule dans ton action perdante? Donc, c'est toujours d'avoir une approche dans le futur. Puis par rapport à ce que tu mentionnais, Frank, c'est vraiment dans le quotidien aussi. Combien de personnes restent dans leur job qu'ils détestent parce que ça fait 20 ans qu'ils sont là puis qu'ils disent, mais si je m'en vais, je vais avoir perdu toutes ces années-là. Puis même conjoint, des fois, on reste dans des relations pour la simple et bonne raison que ça fait longtemps qu'on est avec elle ou lui. Donc, c'est extrêmement difficile. On est comme pogné dans ce genre d'engrenage-là. Donc, il faut vraiment y aller avec le fait que, tu sais, ton passé, c'est important, mais c'est pas garant du futur nécessairement. Donc, tu peux faire page blanche à partir de maintenant. Puis à la bourse, c'est super important parce qu'il y avait une étude qui a été faite, je pense, de 1926 à 2022 qui disait qu'il y avait environ 2 % des actions qui expliquait la performance des marchés boursiers à long terme. Donc, il va y avoir beaucoup d'actions qui vont aller à zéro.
Okay? Exact.
Donc, ça, c'est super important. Quand tantôt, Yann parlait d'être diversifié, là, c'est que le problème, c'est que tu ne sais pas nécessairement quelle action qui va aller à zéro, puis tu ne sais pas non plus quelle action qui va grimper de 1000%. Donc, tu vas augmenter, dans le fond, ta probabilité de frapper une action gagnante en te diversifiant. Mmh. Puis en te diversifiant, tu réduis le risque que tu tombes sur un Nortel. Là, vous êtes peut-être plus jeune, là, mais moi, Nortel en 2000, oui, là, c'était 30% du SPTSX. J'en ai vu des gens là, se faire brûler avec cette histoire-là. Tout là-dedans.
Oh, oui, des BlackBerry.
Parce qu'on n'avait pas l'impression que ça pouvait arriver.
Ouais. Mmh. Ah, mais le Nortel, c'est, je pense que c'est le moment de la bourse canadienne qui a été le plus frappant, ouais, pour bien des Canadiens.
Ouais.
Quand on dit 30% de la bourse, c'est que 30% de l'indice, tu prends toutes les compagnies canadiennes, puis 30% de la valeur de ces compagnies-là, c'était une.
Oui.
Puis il y a des gens qui se promenaient avec leur fonds de pension entièrement investi dans un seul stock, dans une seule action, ce qui est complètement fou des fois. Puis, tu sais, j'utilise beaucoup McDonald's pour le faire réaliser aux gens. Tu dis, est-ce que McDonald's peut faire faillite? Non. Ben pourquoi qu'on n'achète pas juste McDonald's puis on se casse pas la tête avec ça? Puis là, les gens sont dit, ah ouais, OK. Ouais, pourquoi qu'on fait pas ça? Ben si le PDG pogne les fesses de la secrétaire, ça se peut-tu que l'action s'en aille à zéro? Là, t'es là. Hein? S'il y a une boulette flippée à quelque part qui intoxique quelqu'un gravement puis qui le tue, est-ce que ça se peut que l'action aille à zéro? Oui.
Ben, comme même la bière DA, là, Yann. Rappelez-vous de ça, la fameuse bière DA, DAW. C'était une bière très populaire au Québec. C'était une des bières les plus populaires. Finalement, ça a fait faillite. Ça a été racheté, je pense, par Molson ou Labatt. Là. Les gens me corrigeront dans les commentaires. Là. Mais bref, s'il y avait eu un cas d'empoisonnement, il y a des personnes qui sont mortes avec ça, mais ça, c'est un imprévu que tu peux. Personne n'aurait dit, ben, une compagnie de bière qui fait faillite, c'est un marché. Mais t'es pas à l'abri d'un truc de même. McDo n'est pas à l'abri de ça non plus.
Ah, exactement. Non, mais écoute, Michel, si t'arrives, puis tu rencontres beaucoup de nouveaux investisseurs, des investisseurs autonomes de ton côté. Tu fais ça avec Courtage en ligne Desjardins, je me trompe pas. Qui est le nouveau nom, je pense, pour Dysnat.
Oui, c'est Desjardins Courtage en ligne.
Exact. Avant ça, c'était Dysnat que les gens ont connu puis que les gens disent encore. Là. Mais Desjardins Courtage en ligne, tu en rencontres beaucoup. Tu as vu toutes sortes de monde. Tu as vu des gens avoir du succès. Tu as vu des gens avoir des échecs. As-tu des gens que tu as changé leur vie un peu avec tes formations? Des gens qui prenaient une certaine direction puis tu as amené une discipline chez eux qui leur a permis de demeurer un investisseur autonome, de ne pas abandonner de leur côté?
Bien, il y a trois types d'interventions. Il y en a une, on dirait, là, Yann et Frank, tu as beau dire à quelqu'un, tu sais-tu quoi, ta probabilité de succès, elle est mince, on dirait qu'il faut que les gens l'essayent quand même et qu'ils se cassent la gueule.
Okay? Ah, puis moi, je les empêche jamais.
Puis c'est ça. Puis moi, je leur dis, t'es mieux de tomber d'un escabeau que du 8e étage.
Tout à fait.
Donc, amuse-toi avec un 2000$, pète-toi les dents, ramasse tes dents cassées avec tes doigts à terre, mais tu sais, arrête ça là. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a beaucoup de gens qui sont passés de gestion active à gestion passive.
Oui.
Et parce qu'ils ont réalisé, tu sais-tu quoi, moi, je suis plus ou moins bon, j'ai pas nécessairement le temps pour investir. Gestion passive, pour moi, c'est correct. Je suis capable de bien m'autogérer, puis je mets de l'argent dans le marché de façon systématique à chaque mois. Super. Tu as changé ma vie à cause de ça. Donc ça, bravo. Puis le troisième, ben, tu sais-tu quoi, je vais faire affaire avec un conseiller en placement. Parce qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas les compétences de le faire. Donc, moi, j'essaie juste de leur sonner une cloche. Je ne vends pas de rêve, moi. Moi, mon objectif, c'est d'être un optimiste réaliste. Donc, pourquoi tu le fais? Ah, ben mon chum fait de l'argent. Non, ce n'est pas une bonne raison.
Non.
Pourquoi tu le fais? Puis là, tu réalises qu'il n'y en a pas de pourquoi. Parce qu'il y a bien des jeunes qui sont motivés ou des personnes à la retraite qui veulent se développer, qui veulent apprendre, puis qui vont avoir du succès chez Desjardins Courtage en ligne, puis bravo. Mais il y en a beaucoup aussi qu'il faut vraiment sensibiliser à dire, c'est pas un jeu, là. Comme je dis tout le temps, on met la rondelle au centre de la glace, puis c'est la Ligue nationale. Il n'y a pas de club-école, pas de pratique. Tu rivalises contre les meilleurs au monde. Donc, juste de sensibiliser les gens à ça, je pense que je rends un service à pas mal de monde juste à cause de ça.
Mais en même temps, si tu veux pas non plus, je pense, éteindre. Parce que je pense à, on a quand même des jeunes là, dans notre auditoire où tout le monde connaît des plus jeunes. Je pense qu'un jeune qui démontre de l'intérêt pour l'investissement, pour la bourse, ça dénote quand même une curiosité intellectuelle. Puis c'est plus édifiant pour lui de s'intéresser à l'économie, au marché financier que de passer ses soirées à jouer à Call of Duty.
Ben écoute,
j'ai rien contre Call of Duty, là, mais vous comprenez l'idée, là, c'est de dire que tu veux pas étouffer cette curiosité-là en disant ouais, attention, t'es pas bon. Ben écoute, c'est de trouver comme un juste milieu là-dedans.
Ça me fait rire ce que tu dis parce que c'est un débat qu'on a déjà eu à l'interne chez votre conseiller.net. Mes fils commencent à avoir de l'argent de côté. Ils ont lu dans Dettes à millionnaire. Non, ils se sont fait dire ce qu'il y avait dans Dettes à millionnaire. Je suis pas freak à ce point-là. Mais ils comprennent que d'épargner, c'est intéressant. Puis tout, fait que les deux, assez jeunes, ont eu à faire des investissements avec leur argent. Puis j'ai choisi d'acheter des stocks individuels pour eux. Grosso modo, là, je gère ça avec un fichier Excel. C'est un peu virtuel. Tu sais, c'est pas... Je fais les achats moi-même dans mon propre CELI pour me rappeler qu'il y a des dividendes et tout ça. Là. Mais j'ai un fichier Excel pour gérer le patent. Parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas acheter des actions à 13 puis 14 ans. Les gens me demandaient, à l'intérieur de votre conseiller.net, écoute, tu distribues des fonds mutuels, des fonds négociés en bourse. Pourquoi tu envoies tes enfants dans des stocks individuels? Mais je disais, c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est parce que l'investissement que je fais, diversifié dans des fonds d'investissement, tout ça, ça fonctionne vraiment bien. Mais calvaire que c'est plate. C'est plate. Il se passe rien, tu sais, c'est pas spectaculaire. Tandis que quand tu achètes un stock individuel, ben tu vas avoir une curiosité qui va s'éveiller en toi. Tu vas vouloir en apprendre plus sur la compagnie. Tu vas vouloir savoir c'est quoi les projets présentement en cours. Tu vas essayer de comprendre les états financiers un peu. Tu vas essayer de voir les dividendes. Moi, ce qui avait accroché bien gros avec mon plus vieux, par exemple, c'est d'investir dans Enbridge. Pourquoi? C'est qu'au moment de ses achats d'actions, la compagnie canadienne donnait les plus gros dividendes. C'était Enbridge. Puis, il voulait acheter cette compagnie-là parce qu'il aimait le principe de recevoir un dividende à tous les 3 mois. À toutes les fois que je versais son dividende dans son compte de banque, il était tout heureux, il était content, il y avait vraiment, ça rendait ça concret pour lui. Quelque chose que je n'avais même pas réalisé avant que ce que ça pouvait faire. Parce que, tu sais, pour nous autres, tu fais 15 % de rendement de gain de capital ou 15 % de rendement de dividende, c'est tout réinvesti au fur et à mesure. Mais lui, de voir concrètement un dividende rentrer dans son compte de banque, ça a fait allumer des choses dans sa tête. Fait que mon fils est un investisseur pétrolier, je me confesse. Mais De faire cet apprentissage-là avec lui, ça a été plus facile de le faire avec des stocks. Fait que le côté curiosité en bourse, il est absolument non négligeable. Ça reste le fun de trader quand t'aimes ça.
Oui, puis c'est comme on dit, un passage obligé. Puis tu sais, par rapport à ce que tu dis, moi, ce que j'aime, c'est que pour les gens des jardins comptages en ligne, ce que je vais leur dire, c'est ouvrez deux comptes. Un compte pour le long terme, puis un compte plus pour la négociation active, et pas mettre vraiment tous les œufs dans le même panier, advenant que tu perds tout ton argent. Puis deuxièmement, quand je parlais du Conseil national, bien, pratique-toi de façon virtuelle. Il y a plein de places où tu peux pratiquer avec l'argent qui n'est pas réel pour savoir, as-tu un processus, une méthodologie? Mais si tu ne fais pas de l'argent sur papier, tu n'en feras pas live parce que les émotions vont embarquer. Donc, c'est une bonne façon aussi de te pratiquer. Donc, comme disait Frank, moi, je suis là pour encourager les gens. Puis d'ailleurs, une des bonnes choses qui est arrivée durant la COVID, c'est qu'il y a un paquet de jeunes qui se sont intéressés à la bourse. Puis d'ailleurs, la statistique, il disait que historiquement, on est dans le coin de 15 % que dans le fond, les transactions proviennent du particulier, mais on avait monté dans le coin de 25 durant la COVID, notamment à cause de Robinhood. Puis Desjardins Comptage en ligne avait beaucoup de momentum aussi. Donc, je trouve ça le fun. Mais tu sais, moi, je veux m'assurer que ça se fasse de façon quand même sécuritaire, puis qu'il soit un peu bien encadré là-dedans. Il n'y a rien de mieux que d'apprendre de ses erreurs, comme moi, j'ai appris de mes erreurs dans le passé.
C'est quoi le plus gros red flag, tu dirais, pour un investisseur? Moi, personnellement, c'est quand tu as le goût d'aller emprunter de l'argent pour investir. Là, tu tombes dans une zone où est-ce que tu es peut-être à côté de tes pompes.
Oui, puis oui, ça, c'est tout à fait. Puis c'est vraiment dangereux parce que, tu sais, c'est comme le concept de l'avalanche. Tu sais, quelqu'un qui a perdu 50 000 $ à la bourse, à moins que tu t'es fait prendre dans un scandale puis que ton action a perdu, tombé à zéro, tu as commencé par une petite perte de 500 $ Puis là, c'est comme la boule de neige qui descend dans une côte puis là, ramasse la neige, ouais. Puis ça devient une avalanche. Donc, souvent, une perte de 50 ou 100 000, ça commence à quelque part. Donc, tu veux éviter justement l'escalade d'erreur, puis ça, c'est un bon point. Moi, je te dirais, là, Yann, un bon truc, là, c'est si tu viens de faire une perte puis tu fais une transaction dans la prochaine minute, là, c'est que tu as envie de te refaire. Ça, c'est dangereux. Exact. Le problème, c'est que souvent, Mettons, tu achètes une action à 5, puis elle va à 2, puis tu n'es pas supposé la garder jusqu'à 2, puis elle revient à 5, puis tu la revends, puis tu es content, là, c'est une mauvaise chose. Parce qu'on vient de renforcer un mauvais comportement. Puis moi, je crois à la blague au dieu du trading, là, puis à un moment donné, tu vas te faire pincer solide.
Mm-hmm. Donc, le karma.
Souvent, la bourse, là, ça rémunère les mauvaises décisions. Parce que tu as été chanceux, mais faites attention à ça. C'est pour ça que, tu sais, moi, j'aime beaucoup ça, avoir un journal de bord, marquer vos transactions, mettons comme ton gars, pourquoi tu achètes Enbridge, puis de le prendre en note. Puis il va avoir des patterns à travers le temps. Il va dire, hey, moi, je fais bien ça, ou j'aime ce style-là. Mais si tu ne fais pas cet exercice d'introspection-là, bien là, c'est un peu comme aléatoire, puis tu n'en as pas de processus.
C'est vrai ce que tu dis là, parce que c'est arrivé effectivement que le titre d'Enbridge baisse.
Ouais.
Mais naturellement, il a voulu le garder pour avoir son dividende. Fait que sans s'en rendre compte, il respectait son principe. Il l'avait acheté pour le dividende, puis il l'a conservé pour le dividende, même si ça allait un peu moins bien. Écoute, c'est fascinant. Puis vous voyez un peu quel genre de personnalité Michel a. Il peut parler de ça pendant 2 heures de temps. Là. Son livre, écoutez, j'oblige mes nouveaux conseillers chez votre conseiller.net à le lire. Là. Fait que, je pense que ça dit tout. Là. J'ai toujours été conscient qu'il y a des gens qui ne feront jamais affaire avec des conseillers. Ça ne m'a jamais dérangé. Je sais que des fois, ils essaient d'avoir des conseillers gratuits. Ça, c'est arrivé à l'occasion dans ma vie. Je les détecte bien, ces gens-là. Mais si vous voulez des conseils gratuits, là, ça existe. Vous les avez dans un livre. Mm-hmm. C'est pas gratuit. C'est 15-20$ que tu vends ça, Michel. C'est 20$, je pense.
Ben, c'est 31$, mais 31 c'est livré à la maison. C'est livré à la maison, la version Parfait. Papier.
Exactement. Puis tu me disais que tu remerciais souvent les gens en personne. Fait que ouais. au téléphone.
Une version numérique aussi, juste dire, sur le site, dans le fond, où vous pouvez vous y rendre avec le code qu'on a mis à l'écran un peu tout le long du podcast. Il y aura, gracieuseté de Michel, des copies pour quelques copies pour les membres Patreon. Fait que Yann, peut-être juste expliquer comment ça fonctionne pour se procurer la copie pour les Patreons. Puis ben après ça, on va te laisser aller, Michel. On est super Parfait. Content que tu aies été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous deux, ça a été super. Merci.
Yes. Merci beaucoup.